Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Aujourd'hui, je vous propose un reportage sur le maraîchage. En effet, la semaine dernière, je suis allé à la rencontre de Marie Courtier, agricultrice à Comté, un petit village situé à 20 minutes au nord-est d'Amiens. Cet échange a été l'occasion de parler du métier de maraîcher, on a aussi parlé de production agricole ou encore d'agriculture raisonnée. Bonne écoute. Marie Courtier, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer où je me trouve aujourd'hui ?
Alors, vous êtes à Comté, sur notre ferme maraîchère, à mon mari et moi.
Alors, est-ce qu'on pourrait revenir peut-être sur ce terme maraîcher, maraîchère ? Qu'est-ce que c'est exactement le maraîchage ?
Eh bien, le maraîchage, c'est le fait de cultiver des fruits et légumes, tout simplement.
Ok, super. Alors, l'exploitation représente à peu près combien d'hectares ? Voilà, qu'est-ce qui se trouve sur votre ferme finalement ?
Alors, en tout, on doit avoir à peu près 5 hectares, donc avec différents fruits et légumes. On a une grosse partie de fraises et d'asperges. Et après, on a un peu tout. On a une partie dite couverte, donc c'est tout ce qui va se retrouver sous serre. Et après, il y a la partie qui est en extérieur, donc sans serre. Voilà.
Comment on choisit les légumes, les fruits ? Comment on choisit ce qu'on cultive en fonction du terrain où on se trouve, etc. Quelle est la logique derrière ?
Alors déjà, on ne peut pas cultiver tout, partout. Il y a des fruits et légumes qui poussent dans notre région et d'autres qui ne poussent pas. Effectivement, par exemple, la banane, on en trouvera pas en Picardie parce qu'elle a besoin d'avoir énormément de chaleur, chose qu'on ne trouve pas. Donc voilà. Donc déjà, on a un panel de fruits et légumes qui poussent chez nous ou pas. Et dedans, nous, on essaye de faire un maximum. Ce qu'on fait surtout, c'est d'échanger avec nos clients et c'est eux qui vont nous dire un peu ce qu'ils attendent. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des fraises et ensuite on a commencé à faire des tomates, puis des salades, puis des radis, puis des blettes, puis des épinards. Et on développe notre gamme comme ça, on essaye, on voit si ça pousse chez nous, si les conditions sont bonnes, on se lance dans la production et si on a une demande aussi, parce que sans demande, on n'a pas d'intérêt à le faire.
Alors vous me parliez de vos clients, qu'est-ce que vous entendez par client finalement ? Est-ce que c'est directement, par exemple, la personne lambda qui vient chercher ses fruits et légumes ? Est-ce que c'est de la grande distribution ? C'est ça ma question.
On travaille directement avec des particuliers. Donc en fait, on a des magasins et des distributeurs automatiques et les gens peuvent venir se servir. On ne travaille pas du tout en B2B, ce n'est pas du tout notre principe et loin de là. Et donc c'est vraiment du particulier comme vous et moi.
Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a finalement motivé ce choix de ne pas passer par la grande distribution et d'aller directement vers le client finalement ?
Alors au tout début, quand on s'est lancé, on n'avait que des distributeurs automatiques de fruits et légumes parce qu'on avait une petite surface et qu'on ne pouvait pas travailler avec des grosses entreprises comme les grandes distributions. Donc ces distributeurs, ça nous permettait d'être au champ et que notre production se vende pendant ce temps-là. Et puis en fait, on a commencé à vendre dans des magasins parce qu'on avait justement besoin d'avoir cet échange avec nos clients. Pourquoi les magasins ? Pour cet échange, donc ils nous disent ce qu'ils ont envie de retrouver dans leurs assiettes et qu'on pourrait essayer de faire pousser, mais aussi pour réapprendre la saisonnalité des produits. Parce qu'aujourd'hui, dans les grandes surfaces, ce que je déplore, c'est qu'on retrouve des fraises toute l'année, des tomates toute l'année. Or, en Picardie, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que quand on a un rayon de soleil qui arrive au mois d'avril, y a des clients qui cherchent à avoir déjà des fraises, sauf qu'elles viennent à peine d'être piquées. Donc non, ce n'est pas possible d'en avoir. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on veut travailler directement avec le particulier. C'est pour pouvoir réapprendre la saisonnalité des produits, mais aussi apprendre qu'en fait, notre métier dépend énormément du temps. Et donc, il se peut qu'il y ait des ruptures de produits pendant une semaine ou deux s'il a plu énormément. Ou s'il a fait très chaud. Et voilà, il faut réapprendre un peu les bases. Notre alimentation, c'est quand même la base de la base. Et du coup, oui, on dépend du temps. Et oui, c'est possible que, par exemple, en salade, on va avoir une petite rupture parce qu'il a fait fort chaud et du coup, elles n'ont pas pu bien se développer. Et on trouve qu'on n'a aucun intérêt à travailler avec la grande distribution aujourd'hui.
Alors, il y a quelque chose de, peut-être pas pédagogique, mais en tout cas, une volonté aussi de sensibiliser finalement les consommateurs, si j'ai bien compris.
Tout à fait. En fait, mon mari et moi, on est tous les deux fils d'agriculteurs et on a toujours vécu comme ça. Et on trouvait qu'autour de nous, ça manquait, que les gens ne savaient pas et qu'ils avaient beaucoup de questions et personne parfois pour répondre à leurs questions. Et donc, effectivement, ce côté pédagogique est très important pour nous.
Il me semble que vous avez récupéré la ferme de vos parents ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'eux pratiquaient déjà ou pas ?
Pas du tout, en fait. Donc effectivement, on a récupéré la ferme de mes beaux-parents. Enfin, on a racheté la ferme de mes beaux-parents. Moi, mes parents sont agriculteurs aussi. Alors, De mon côté, mes parents sont arboriculteurs, donc ils forment des pommes et des poires, donc ça a toujours été diversifié. Ici, la ferme de Comté, elle n'était pas diversifiée. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture, c'est compliqué. Si vous n'avez pas des très grandes surfaces, des très grandes fermes de beaucoup d'hectares, c'est compliqué de survivre. Du coup, on avait vraiment besoin de se diversifier. Et donc, on a commencé à se diversifier, en fait, sans produire. On avait nos distributeurs aussi, on faisait de l'achat-revente et on produisait un petit peu. Et puis, au fur et à mesure, on s'est développé, justement, grâce aux demandes de nos clients, ce qui nous a amené à avoir une surface pareille aujourd'hui.
Alors on reviendra peut-être un peu plus tard dans l'interview à tout ce qui est modèle d'agriculture. Là on a abordé un petit peu la sensibilisation, la pédagogie. Est-ce que vous pourriez m'expliquer par curiosité qu'est-ce qu'on plante là actuellement au mois de septembre, qu'est-ce qu'on fait pousser et qu'est-ce qu'on va récolter au mois de septembre dans une ferme maraîchère de la Somme ?
Alors, ce qu'on va semer ou planter aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on va récolter au mois de septembre. Les délais sont plus grands, à part les salades qu'effectivement on peut repiquer là, mais on les repiquera, enfin, elles ne seront pas encore bonnes fin septembre, ça sera plutôt courant octobre. En ce moment, on a commencé à repiquer les épinards, mais qui vont donner cet hiver, les mâches, les jeunes pousses, on a semé un peu de radis noir, mais voilà, tout ça, c'est des productions qui vont arriver pour cet hiver. Le gros des plantations et des semis ont déjà été faits auparavant. Par exemple, ce qu'on va récolter là prochainement, ça va être tout ce qui est courge, mais ça a été semé au début d'été.
D'accord. Alors justement, me renseignant un petit peu sur la ferme, je voyais, il me semble que vous parliez d'agriculture raisonnée. Qu'est-ce que l'agriculture raisonnée ? Est-ce que vous pourriez me la définir rapidement ?
Alors en fait, l'agriculture raisonnée, ça va être le fait de... Ce n'est pas l'agriculture biologique pure et dure. Nous, notre vision des choses, c'est de semer ou planter et de laisser la nature faire, donc laisser nos plants pousser et laisser voir ce que ça va donner. Et si jamais il y a des maladies, on va utiliser des produits biologiques. Par exemple, on va essayer d'utiliser un maximum de produits qui sont le plus, entre guillemets, naturel possible. On utilise aussi, par exemple, de la PBI, c'est de la protection biologique intégrée, donc ça va être des lynchers d'insectes qui vont venir manger les autres insectes si jamais on a une attaque d'insectes. Mais on se garde cette possibilité de, si vraiment il y a une grosse maladie qui peut mettre en péril toute la production et qu'on perd de tout, de pouvoir utiliser des produits qui sont un petit peu plus agressifs. Mais alors il faut quand même bien être conscient qu'aujourd'hui en France on est hyper contrôlé et heureusement, et que quand je vous parle de produits agressifs, c'est quand même 3 gouttes dans des centaines et des centaines de litres d'eau, donc c'est quand même énormément diffusé.
J'aurais aussi peut-être voulu vous demander quels avantages vous voyez à ce modèle, quels inconvénients finalement, quelle est la balance sur ce modèle entre contraintes et avantages finalement ?
Alors ça, c'est une bonne question. On est quand même passionné par notre métier. On aime quand même énormément nos plantes. On a besoin de les voir, de les pousser. Et c'est vrai que sur certains modèles, par exemple, je ne vais pas lancer de débat avec l'agriculture biologique, mais on va venir mettre des intras avant de semer ou de repiquer quelque chose, au cas où il y aurait quelque chose qui arriverait plus tard, parce qu'on ne peut pas le faire après. Là, nous, on laisse vraiment nos plantes. Et de les laisser pousser sans rien, on voit un peu ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. On les laisse le plus naturellement possible, et si jamais il y a une attaque de quelque chose, on va se rendre compte de qu'est-ce qui a pu faire que cette attaque est arrivée. Donc c'est un avantage parce qu'on les laisse pousser, en même temps c'est un inconvénient parce que parfois on les met à des risques qui vont nous demander beaucoup de travail après pour pouvoir évacuer cette maladie, comme par exemple de la taille qui va demander énormément de main d'œuvre et du coup beaucoup de temps.
Alors justement, on parle de main-d'œuvre et de temps. Il y a combien de personnes qui travaillent sur la ferme actuellement ?
Alors ça dépend des saisons. Là aujourd'hui, sur la ferme, on a 2, 4, 5, 6 personnes. Mais on est encore en grosse saison de récolte. Plus ça va aller, plus les récoltes vont diminuer, dans le sens où tout ce qui est produit d'hiver, on a quelques récoltes qu'on fait tous les jours, mais il y a beaucoup de récoltes qui se font à l'automne et qu'on conserve dans des frigos pendant longtemps. Par exemple, les carottes ou les poireaux, les carottes, elles vont être arrachées d'ici un mois et après on les conserve dans les frigos. Il ne faut pas qu'elles restent en terre, sinon elles ont un risque de geler. Et du coup, voilà, alors que là, aujourd'hui, on a encore des poivrons, des aubergines, des tomates, des courgettes, donc ça demande, tous les jours, ça demande beaucoup de cueillettes et du coup, beaucoup de monde.
En termes de temps, qu'est-ce que ça représente peut-être sur une semaine en termes d'heures de travail ? Est-ce que vous comptez vos heures ou pas ? On a souvent l'image de l'agriculteur qui dort pas beaucoup et qui travaille énormément. Qu'est-ce que ça représente à votre niveau ?
Alors, on n'est pas que agriculteurs aujourd'hui, nous, parce qu'on vend aussi nos produits. Donc oui, ça représente énormément de travail. Il faudrait calculer, en fait, là, toutes les personnes dont je vous ai cité, elles sont à temps plein. Donc voilà, elles travaillent, elles font des belles journées. Donc vous pouvez faire le calcul si ça vous amuse. Mais nous, en tant qu'agriculteurs, effectivement, on ne compte pas nos heures. Après, c'est un métier passion. Il faut qu'on soit là tous les jours. Il faut qu'on vérifie tous les jours que nos plantes vont bien. Donc effectivement, le week-end, il faut être là. Et puis, comme une fois de plus, on dépend la météo, donc s'il y a un moment où il faut faire quelque chose parce que le temps est clément, que ce soit un samedi, un lundi, à 14h, à 18h ou à 7h du matin, on y va, quoi.
En termes de calendrier, est-ce que vous fonctionnez un petit peu comme une personne qui va faire pousser un champ de blé, c'est-à-dire qu'il va y avoir le temps de la semence, le temps du labourage, le temps de la moisson, avec peut-être une période un peu plus calme l'hiver, ou alors vous allez vraiment vous adapter finalement à la saison et aux légumes que vous avez à faire pousser sur ce moment-là?
Alors l'agriculteur, il fait aussi par rapport aux saisons, donc oui, on fait comme le blé, effectivement, on prépare la terre avant de semer, avant de repiquer, et on fait pousser. Je trouve qu'on est comme un agriculteur. Alors oui, le céréalier, il est un peu plus cool l'hiver, mais il faut quand même qu'il surveille ses champs. Nous, on est un peu plus cool l'hiver parce que, comme je vous l'expliquais, nos grosses cultures, elles sont déjà plus ou moins récoltées, même si on récolte encore un petit peu tous les jours de la mâche, par exemple, ou des poireaux. Mais vite revient le temps où on va repréparer les terres pour les semis et plantations de cultures de fin d'hiver pour le printemps. Donc, on est un petit peu plus cool en décembre, janvier, mais on a toujours à faire quand même, d'autant plus qu'on vend, une fois de plus, nos produits qui sont stockés et qui ont été récoltés un peu avant.
En termes de semences, comment ça se passe sur la ferme? Est-ce que vous allez acheter des semences? Est-ce que vous allez les produire? Comment finalement ça fonctionne ici?
Alors aujourd'hui, on achète nos semences, on ne les produit pas et on achète aussi des plants. Après, ça serait un projet qu'on a de pouvoir faire nos plants nous-mêmes. Mais il faut du temps qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. En tout cas, il faut trouver une nouvelle organisation pour pouvoir le faire. Mais ça, c'est un vrai désir qu'on voudrait de peut-être pas faire nos semences nous-mêmes parce que c'est encore un autre métier. D'ailleurs, les personnes qui font des plants, c'est un métier à part entière. Mais on aimerait quand même essayer, là, je pense cette année, on va essayer sur quelques cultures de faire nos propres plants. Comme ça, on peut faire nos... Enfin voilà, quand vous achetez un plant, vous n'êtes pas toujours sûr de s'il n'a pas un peu filé, c'est-à-dire qu'il n'a pas monté un peu trop vite et il ne s'est pas assez étoffé. Et si on les faisait nous-mêmes, on aurait la certitude que ce serait le mieux pour que la plante ait une croissance la plus belle possible.
J'aimerais discuter un petit peu des contraintes liées au métier d'agriculteur. Quand on ne connaît rien à ce monde, on entend souvent parler du réchauffement climatique. On entend souvent parler aussi des contraintes que peuvent apporter l'Europe. Vous, quelles sont finalement vos contraintes à vous sur cette ferme?
Alors oui, on le ressent, le réchauffement climatique, ça c'est certain. Les saisons ont un peu bougé, après on s'adapte. En maraîchage, on est sur des cultures qui sont un peu plus courtes, donc on arrive à s'adapter. Les contraintes de l'Europe, oui, il y en a. Alors en maraîchage, peut-être un peu moins qu'en grande culture, mais nous on fait de la grande culture aussi. Oui, c'est assez compliqué.
Quelles sont-elles ces contraintes finalement?
Il y en a, et ce serait des débats qui seraient très compliqués, mais en fait, ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est que les dirigeants et ceux qui prennent les décisions pour les agriculteurs, ce n'est pas ceux qui sont dans les champs et qui se rendent compte de ce qui se passe. On serait bien contents de leur ouvrir nos portes et qu'ils viennent passer une journée avec eux et qu'ils comprennent qu'on n'est pas là. Parfois, on a quand même cette image d'avoir un agriculteur qui est pollueur ou qui veut intoxiquer tout le monde. Ce n'est pas du tout notre but. Et je ne vois pas en quoi ça serait notre but, d'ailleurs, parce que ça serait nous porter préjudice, tout simplement. Donc voilà, ce qu'on reproche aujourd'hui beaucoup, c'est qu'on a énormément de charges, qu'on nous demande de toujours faire plus, et tout coûte une fortune, hein, comme beaucoup, hein, je l'entends, mais on est vraiment sur notre dos. Et en fait, comme contrairement à une entreprise basique qui va produire quelque chose et qui décide de son prix, en agriculture, c'est l'Europe qui décide des prix et c'est pas le producteur. Et parfois, ils prennent pas en fonction les charges qu'on peut avoir tout autour, quoi. Donc, c'est pas rentable.
On comprend des contraintes qui sont assez lourdes et qui peuvent être compliquées au quotidien. Vous, qu'est-ce qui vous a finalement donné envie de reprendre le métier de vos parents, de reprendre cette voie-là et de continuer dans le maraîchage et l'agriculture?
Alors j'aimais bien le contact avec... En fait, déjà, quand on est agriculteur, souvent on travaille tout seul. Donc moi, j'aimais bien le fait d'avoir des personnes autour de moi. Aussi bien, au départ, quand on a commencé avec les distributeurs, on croisait quand même quelques clients. Donc ça, c'était sympa. Et aujourd'hui, d'autant plus avec nos magasins. Et puis, pouvoir subvenir à un besoin des clients. Des consommateurs, donc ça c'est important pour moi, et de voir pousser notre plante, en fait, de tout faire de A à Z. On va du semis jusqu'à l'assiette de nos consommateurs, et les retours qu'on peut avoir, c'est vraiment top.
Super. Alors, comment vous fonctionnez en termes de, bah, de produits ? Est-ce que vous fonctionnez avec le calibrage des fruits et légumes ? Qu'est-ce que vous faites aussi de vos invendus ? Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu tout ça ?
Alors non, on ne calibre pas du tout. Et c'est aussi l'avantage de vendre directement à nos consommateurs et pas passer par des grandes distributions parce qu'on vend tout. Et on explique à nos clients que bah, voilà, un plant de tomates, il va faire des grosses, des moyennes et des petites tomates et on les vend toutes. Voilà. On a, nous, dans chacun de nos magasins et distributeurs, des casiers anti-gaspi, donc avec des fruits et légumes qui sont un peu plus moches ou un peu avancés à consommer rapidement avec un prix plus attractif. Et on transforme une partie de nos fruits et légumes. Alors aujourd'hui, par exemple, toutes nos fraises, lorsqu'on cueille des fraises, on a nos belles fraises qui sont vendues et celles qui sont un peu moins belles qu'on congèle au fur et à mesure ou qu'on transforme en confiture. On les congèle quand on a une grosse quantité pour pouvoir, pouvoir faire de la confiture tout l'hiver. Mais voilà, donc on transforme. Et après, il y a une autre partie qu'on aimerait bien transformer, mais on a du mal à trouver des labos. Mais j'ai entendu dire qu'il y a une conserverie qui allait peut-être se monter à Amiens et ça, ça serait vraiment le top parce que nous, ça nous fait mal au cœur parfois. Alors, on ne jette rien. Parce que comme dans la nature tout se réutilise, ça apporte du compost dans nos terres, donc ça c'est bien. Mais il y a des produits parfois qui sont que les gens ne veulent pas et pour autant qu'ils ne sont pas mauvais, mais que nous on ne pourrait pas conserver sur de long terme. Et si on pouvait le transformer en soupe ou en coulis ou j'en sais rien, en ratatouille, ça serait top. Et donc je souhaite de tout cœur que la conserverie arrive là à Amiens d'ici peu.
Donc finalement, cette conserverie, j'imagine qu'elle peut vous permettre de vous rapprocher de d'autres consommateurs, finalement d'autres clients, entre guillemets, enfin pas vraiment des clients, parce que sur la conserverie, ça va fonctionner un peu différemment, mais elle va aussi vous permettre d'aller un peu plus loin dans votre démarche anti-gaspi.
C'est ça. Et puis après, chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand vraiment, parce que si vous voulez, on a des pics de production qui peuvent arriver parfois l'été, et c'est souvent le cas, et nos clients sont partis en vacances. Donc quand c'est vraiment le cas et qu'on ne veut pas remettre au compost, on appelle une association qui est les Robins d'Ébène et qui viennent chercher nos surplus. Et ils arrivent toujours à en faire quelque chose. Et donc voilà, et je me dis que si eux, dans le même moment, ils ont peut-être moins d'adhérents qui sont là à cette époque-là de l'année pour X ou Y raison, ils pourront peut-être se transformer ces produits-là et leur donner un autre moment où quand vraiment il y a énormément de chou-fleur et que bon, bah, quand on a mangé du chou-fleur à deux repas, après on en a marre, ils pourront peut-être trouver des recettes et les conserver dans des conserves et du coup pouvoir donner le goût de ces produits qui sont parfois oubliés ou pas bons quand ils ne sont pas cuisinés. Et je suis sûre qu'avec toutes leurs idées, ils arriveront à faire aimer chou-fleur à quelqu'un qui n'aimait pas ça, quoi.
Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce partenariat avec Robins d'Ébène, c'est du donnant-donnant aussi finalement, parce que vous allez leur apporter des invendus, mais en même temps, ils vont vous dépanner justement pour vous débarrasser de certaines choses qui vont traîner sur votre production, quoi.
Ah, mais carrément. En fait, quand on a commencé à avoir des surproductions, j'avais cherché un peu et je suis tombée sur Louise et j'ai trouvé déjà son concept génial. Je la suivais déjà sur les réseaux, mais je n'avais pas trop su comment elle faisait pour redistribuer en tout cas tout ce qui était alimentaire. Et on s'est eu au téléphone et j'adore son concept. Je trouve qu'elle a de super bonnes idées, elle a une équipe qui est top, ils sont hyper réactifs parce qu'une fois de plus quand on a des grosses productions souvent il faut les consommer vite et enfin voilà, on sent qu'ils sont très très investis dans leur association, ils trouvent toujours un moyen de venir rapidement récupérer les produits, donc c'est carrément du donnant-donnant parce que quand parfois on a des kilos et des kilos de tomates qui sont invendus, on trouve ça quand même dommage alors qu'on sait qu'il y a des gens qui peuvent pas se nourrir comme ils voudraient, donc c'est pour moi la meilleure association qui existe sur Amiens. Le pic de production des tomates, c'est quand même en plein été, au plein mois d'août. Donc là, on a appelé les Robins d'Ébène une fois pour que, bah, parce qu'on en avait tellement. En fait, on est obligé d'en avoir beaucoup pour pouvoir répondre à la demande de nos clients, mais qui va arriver peut-être un peu plus tard. Donc voilà, on a appelé les Robins d'Ébène à ce moment-là. Et pareil pour les courgettes, on en a eu beaucoup à un moment, ils sont venus en chercher. Et une autre fois pour des choux-fleurs. Donc voilà, donc là, on a des serres avec des tomates et concombres et melons. Mais là, on arrive sur la fin des melons. Après, ici, on a essayé de faire un petit verger avec des fruits rouges, donc voilà. Ici, on a des futures courgettes qui arrivent. À côté, on a des poivrons et des aubergines. De l'autre côté de la route, on a tous nos légumes d'hiver qui arrivent avec tout ce qui est courge, poireaux et choux. Et après, on a nos serres de fraises. En fait, il faut savoir que normalement, on fait des fraises hors sol parce que pour la cueillette, c'est beaucoup plus facile et pour prévenir des maladies aussi, parce que ça respire beaucoup plus. Donc ça nous permet une fois de plus de mettre beaucoup moins de produits si jamais il y en avait besoin, parce qu'il y a moins de maladies. Et c'est aussi l'intérêt des serres, c'est qu'en fait on contrôle beaucoup plus l'hydrométrie et la chaleur, parce qu'on peut les ouvrir, voilà. Et donc ça permet d'avoir beaucoup moins de maladies qu'à l'extérieur, où les plantes pourraient prendre énormément d'eau tout d'un coup, ou avoir beaucoup trop chaud, ou beaucoup trop froid, enfin voilà. Et donc tout ça pour en revenir aux serres. Donc en fait ce sont des fraises qui sont hors sol, donc normalement elles produisent deux fois et après on est censé les mettre à la poubelle, mais c'est une chose qu'on ne fait pas et on les réutilise en ayant du coup une gamme à confiture si on veut. Alors parfois elles sont suffisamment belles pour pouvoir les vendre normalement, et si elles sont un peu déformées machin, on peut les utiliser pour transformer en confiture ou pour faire du sirop avec. Et du coup pareil avec nos framboises, qui sont normalement des framboises hors sol mais qu'on a repiquées dehors en se disant ben voilà, on va pas les jeter, c'est quand même dommage, c'est des plantes à part entière, donc voilà. Et après, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Après, aussi, on a toute une gamme de salades là, qu'on repique toutes les semaines et qu'ils nous donnent au fur et à mesure. Et puis, on a essayé de faire un petit champ d'herbes aromatiques parce que c'est quand même vachement sympa de pouvoir agrémenter. Donc voilà.
Est-ce qu'avec ce qu'il y a là, vous arrivez, vous, à vous nourrir de fruits et légumes pour faire des repas complets, finalement ? Comment ça se passe pour vous, personnellement ?
Ah bah, puis oui, complètement. Et surtout, en ce moment, on a quand même une grande diversité de fruits et légumes. C'est vrai que l'hiver, quand on entre dans le chou, la carotte, les épinards, bon, on a vite fait le tour. Mais là, on a tellement de fruits et légumes différents. Enfin, ça paraît peut-être pas beaucoup comme ça, mais on a quand même beaucoup, qu'on mange des fruits et légumes tous les jours et que je serais incapable d'acheter des fruits et légumes en supermarché. En plus, on a tellement d'idées de recettes maintenant, grâce à Internet, on peut trouver des milliards de recettes, et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé avec des idées de recettes sur nos réseaux sociaux, parce qu'il faut prendre le temps d'aller chercher, mais en fait Internet regorge de milliards d'idées et on peut utiliser une tomate de diverses façons, et c'est trop chouette, et on va venir mettre en avant certains goûts suivant la façon dont on cuisine ou suivant la petite herbe qu'on vient rajouter. Mais oui, on mange que nos fruits et légumes, et pour le plus grand bonheur de nos enfants. Je connais pas d'agriculteurs qui ne mangent pas leur production, et puis c'est ce que j'ai toujours dit quand il y a eu tous ces débats sur le bio. Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai un papa qui est arboriculteur, j'ai toujours mangé les pommes et les poires de mon papa, à tel point que quand on en achète une en supermarché, parce qu'on se retrouve chez des gens, j'aime pas ça, parce que ça n'a pas tout le même goût, et c'est de l'agriculture raisonnée également. Mais vous voyez, je fais 1m83, je suis en pleine santé. Enfin, c'est pas parce que c'est pas biologique que c'est pas bon pour la santé. Et les agriculteurs, on n'est pas là pour empoisonner les gens. Bien au contraire, on a envie que notre production, elle s'en aille. Donc forcément, on veut que ça soit le meilleur possible. Enfin, moi, j'aurais aucun intérêt à produire quelque chose qui n'a pas de goût, au risque de perdre mes clients. Enfin, c'est complètement débile. Et pour pouvoir vendre nos produits, il faut qu'on les goûte, qu'on les mange. Comme ça, si jamais on avait un problème, de toute façon, on se dirait sûrement pas. Enfin, si jamais demain, sur un pied de tomate, je mange une tomate qui n'est pas bonne, on arrête la cueillette de ce pied de tomate-là, parce que mon objectif, c'est que les gens ils soient contents de leurs produits et qu'ils aient envie de revenir. Et une fois de plus, nos retours de clients, c'est ça qui nous fait porter. Quand on doit travailler tous les jours, qu'on n'en peut plus, qu'on refuse des choses parce qu'on doit être sur notre ferme, et bah, juste avoir un retour d'un client qui nous dit « Ah, c'était vachement bon !» C'est la meilleure récompense qu'on peut avoir. En fait, vraiment, on reste des êtres humains.
Donc là, finalement, il y a aussi une certaine exigence dans les produits que vous allez développer, finalement.
Ah mais oui, c'est ça qui est passionnant dans notre métier, c'est qu'on veut avoir le fruit où on retrouve toutes les saveurs, toute la texture. Une fois plus, je reviens à mon père parce que il produit depuis bien plus longtemps que moi, et j'ai plein de clients qui me disent mais je retrouve le goût de la pomme de mon enfance, chose qu'on ne trouve plus dans le supermarché, et ça c'est top. Et en fait, on se rend compte que le verger que mon papa et mon frère exploitent aujourd'hui, c'est mon grand-père qui l'avait planté. Il avait planté les arbres d'une certaine façon parce que c'était meilleur pour le goût des pommes, etc. Et là, c'est exactement ce qu'on fait. On sait qu'on a des terres où il y a un peu plus de cailloux. Du coup, il y a des plantes qui vont moins aimer, qui vont moins se développer en termes de texture sur les fruits ou de côté gustativement parlant. Et du coup, on le fera pas. Donc, il y a vraiment... On veut faire un produit. Enfin, on est passionné par nos métiers. Donc, on veut faire le produit le meilleur possible, que vous en souveniez pendant longtemps.
Alors, quand on vous suit un petit peu sur les réseaux sociaux, on voit pas mal de recettes qui passent à droite à gauche. Qu'est-ce que vous avez à me conseiller aujourd'hui, finalement ?
Alors aujourd'hui, on est quand même en plein pic de tomates et on a une petite recette qui va sortir là d'ici la fin de semaine avec une tatin de tomates. Franchement, c'est top et c'est hyper facile. Je vous la conseille vraiment.
Finalement, peut-être pour terminer cette interview, comment vous voyez l'évolution de votre métier? Voilà, comment vous voyez finalement l'évolution de la ferme peut-être dans le futur, quoi, finalement?
Alors, j'aurais aimé qu'elle garde, que notre métier il garde cette même image qu'il avait dans le Covid, pendant le Covid. Je pense que pour beaucoup d'agriculteurs, c'est le cas. En fait, on a vraiment eu un retour aux choses primaires pendant le Covid parce qu'il y avait très peu de choses qui étaient ouvertes et ça nous avait vraiment fait du bien. Sauf que c'est redescendu comme un soufflet aussi vite que ça a monté. Donc, mon rêve, ça serait ça. Ce serait qu'effectivement, il y ait de plus en plus de gens qui comprennent que notre métier, qu'on veut bien faire, qu'on veut apporter des bons produits. En fait, c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé. Moi, j'ai toujours été habituée à manger des fruits et légumes qui venaient d'être cueillis à maturité. Et c'est bien ça toute la différence que ce que vous pouvez trouver en supermarché. Parce qu'en supermarché, les tomates que vous allez acheter, elles ont été cueillies pas mûres et elles vont mûrir pendant le trajet ou en tout cas pendant le délai. Enfin, durant le délai de la vente. Et nous, on cueille à maturité. Et voilà, j'ai envie et je pense qu'il y a la place pour tous les maraîchers et que chacun consomme des produits locaux. D'une, ça aide les emplois, puis on aide les entreprises locales. Et franchement, il y a une vraie différence. Vous allez retrouver un goût qui est carrément bon. Et maintenant, avec tout ce qu'on fait, parce qu'effectivement, forcément, on a des salaires à payer. Alors, on n'est pas plus cher qu'en supermarché, mais parfois, certaines personnes, du coup, vont être réticents à l'idée de passer la porte de chez nous. Sauf que quand ils vont le passer, ils vont se rendre compte que c'est pas plus cher qu'en supermarché et parfois c'est moins cher. Donc j'invite tout le monde à se rendre. C'est pas parce que c'est local que ça va être plus cher et que c'est pas accessible à tous. Et d'autant plus par des initiatives comme l'anti-gaspi qui va être carrément moins cher, on peut encore trouver son bonheur. Et des associations comme celle qu'il y a avec les Robins d'Ébène et qui ont des idées plein la tête, vraiment c'est disponible à tous. Et je souhaite que la plus grande majorité des gens qui vont nous écouter mange du local.
Eh bien, on va se quitter sur ces quelques mots. Merci beaucoup.
Merci à vous, bonne journée.
Vous écoutiez un reportage enregistré à Comté dans la ferme de la famille Courtier. J'espère que cette réalisation vous a plu. C'est la fin d'InfoClub Sandwich. On se retrouve demain pour une émission spéciale consacrée à l'artiste amiénois Dodler qui vient de sortir son projet 3. Switch. À demain.